Salut tout le monde, bon midi, boulevard 102.1 dans On en jase. Mon nom est Gabriel Marino. Très heureux de remplacer aujourd'hui donc les acteurs habituels de cette émission. Merci Mathias pour ma première édition de On en jase. C'est édition très limitée ça. Tu sais, des fois, ils font ça, les microbrasseries, là, ils t'en font comme juste pour deux semaines, puis profitez-en de maintenant. Ça va être ça, profitez-en juste aujourd'hui.
Juste là.
Salut Mathias, ça va bien?
Ça va très bien.
Bonjour Antonine.
Allô Gab.
Un charme de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir dans l'édition très limitée.
Oui.
Je me sens vraiment privilégié.
Tout à fait, jusqu'à 14h, c'est une édition donc...
très limitée.
De On en jase. On va s'assurer de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. On a quand même un show bien spécial de prévu pour vous et je me tâcherai quand même de vous parler un peu de country d'ici la fin de l'émission si vous m'en permettez. Mais Mathias, avant toute chose, circulation, manchette, tour de table, un peu d'actualité.
Oui, je veux juste commencer avec la circulation parce que puis on le voit depuis maintenant quelques jours, en fait, depuis mon retour de vacances, que c'est plus difficile et ça même sur l'heure du dîner, notamment sur la 20 en direction ouest, il y a des travaux dans le secteur de Taniata, puis ça rend la situation compliquée à longueur de journée. C'est présentement entre Taniata et Président Kennedy que c'est au ralenti. Également, leur ancienne direction sud pour accéder à la capitale, un peu d'attente dans le secteur. Laurier, en direction ouest, dans le secteur du centre d'achat, c'est au rouge aussi, il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Météo peut-être aussi, juste pour faire le tour là-dessus. Là, présentement, on a 21 degrés. C'est une belle journée sur Québec, vraiment. 40% de risque d'averse ce soir et cette nuit. Annulez rien par rapport à tout ça. Là. C'est un 14 au minimum par la suite. Demain, c'est sûr que c'est pas, y a rien de gagné. Là. Ça, c'est prévu des averses. Risque d'orage aussi au sud en après-midi. Et le maximum est à 17. Samedi, des nuages, 21. Puis dimanche, à date, c'est la belle journée du week-end avec un maximum jusqu'à 23. J'ai cru voir que l'appel d'offres d'intérêt international a été lancé pour de vrai cette fois-là. C'est la combienième fois qu'on fait cet appel d'intérêt international pour le troisième lien?
Beaucoup trop?
Oui, non, c'est ça.
Puis... Non, il y en avait eu un autre, genre,
ouais,
lancé ça, par Geneviève Guilbeault.
Oui, ouais, c'est ça, exact. Puis ça n'avait jamais abouti finalement. Est-ce que ça... En fait, ça semble être encore un autre spectacle de la CAQ avant les élections pour un potentiel troisième lien qui va jamais aboutir finalement. En gros,
tellement cynique, Mathias. Voyons.
Je me demande bien pourquoi je suis cynique comme ça sur le dossier du troisième lien.
Je comprends pas ton découragement. Ça va très bien. Ça va bon train. Ce dossier-là, ça avance.
Ça avance à une vitesse exceptionnelle depuis maintenant 8 ans sur le gouvernement. Tu l'as dit, c'est le gouvernement Fréchette qui a lancé un appel d'intérêt international pour réaliser le troisième lien à l'Est, collaboration avec le privé. On veut un pont à péage à l'Est. Par contre, il va falloir attendre au printemps 2027 pour connaître le tracé exact.
Si jamais ils sont réélus ou ça va avoir lieu quand même, en fait, il n'y a pas d'autre gouvernement potentiel que la CAQ.
On attend un peu les prises de position des partis politiques. On sait que le Parti québécois s'est positionné contre un troisième lien autoroutier. On sait que Charles Milliard, chef du Parti libéral, est pas contre un troisième lien, mais ça n'a pas l'air d'être la priorité de tous ces instants non plus, mais c'est pas clair.
Il est pas contre un troisième lien. Lui, il a d'air quand même assez pauvre, mais chaque fois qu'un autre, un des députés du Parti libéral prend parole dans les médias, ça n'a pas l'air vraiment désintéressé tant que
non,
ça,
hein?
Troisième lien.
Le PLQ de Dominique Anglade était contre,
ouais.
Alors que le PLQ de Philippe Couillard avait parti le bureau de projet.
Ouais.
Donc, c'est pas clair. QS, c'est clair, là, son compte.
Mais c'est clair qu'ils seront pas élus au gouvernement non plus, par exemple.
Es-tu sérieux?
Fait que c'est pas comme si avoir un enjeu là. Mais tu sais, cette nouvelle mouture de la dernière, l'ultime version du projet de Christine Fréchette, plus proche de l'île d'Orléans, là, et également avec un péage et tout ça. En tout cas, il y a une plus grande, j'ai l'impression... Un plus grand appétit pour cette idée-là avec le péage, surtout sur la Rive-Sud. Bien, la Rive-Sud, de toute façon, ils sont contents, mais avec cette version-là qui vient vraiment faire le périphérique, ça a l'air d'être ce qu'on dit depuis 10 ans que ce serait, me semble, la meilleure idée, mais qu'on a toujours refusé parce que c'était quelque chose de trop gros, trop massif, puis par-dessus le fleuve. Puis que là, finalement, on essaye ça la dernière fois. Mais j'ai hâte de voir s'il n'y a pas d'autres gens que la CAQ qui vont embarquer dans cette idée-là.
Puis on oublie Éric Duhaime, quand même, qui est assez clair. Lui,
c'est clairement ce
projet-là. Lien, c'est ça, à l'Est. Donc, finalement, on a satisfait M. Duhaime.
Mais encore une fois, on ne va pas être élu du côté des conservateurs. Fait que tout porte à croire que...
Ça sert à rien.
C'est que si quelqu'un d'autre que la CAQ est élu... ça se pourrait qu'il y a de bonnes chances que le projet tombe à l'eau. Ouais. Puis même si la CAQ est réélu, il y a de bonnes chances que le projet tombe à l'eau aussi.
Mais Éric Duhem aussi fait élire quelques députés sur la Rive-Sud et peut-être sur la Rive-Nord aussi.
Avoir la balance du pouvoir.
Et là, oui, dans un contexte de gouvernement minoritaire, mettons que ce soit la CAQ ou le Parti libéral gagne, ben peut-être que le projet aura des chances d'avancer. Le PQ, eh ben, je mets QS là-dedans, mais effectivement, les chances sont faibles que QS
gagne
la prochaine élection.
Avec les libéraux minoritaires, il y aurait peut-être un...
On verra, mais tu sais, c'est sûr que ça fait 15 ans qu'on en parle, puis ça va être la quatrième élection qu'on fait sur le troisième lien. Donc, même que tu sois pour ou contre, on dirait que les gens ont juste les oreilles qui se ferment quand on parle de ce projet-là maintenant.
On n'a pas le choix de revenir sur l'état d'urgence qui a été déclaré du côté du Venezuela à la suite de deux puissants séismes de magnitude 7.2 et 7.5. On parle d'un bilan actuel de 164 morts et 1000 blessés. Puis je dis bien actuel parce qu'il pourrait fortement s'alourdir au cours des prochaines heures. C'est notamment l'Institut géologique des États-Unis qui a fait une estimation comme quoi il y avait de fortes chances que le bilan s'alourdisse. Mais quand je dis s'alourdir, c'est quand même assez fortement, là. Selon eux, les probabilités qu'on se retrouve avec un bilan entre 100 et 1000 morts sont de 8 % entre 1000 et 10 000 morts, 33 % Et la probabilité la plus élevée, selon eux, ce serait un bilan entre 10 000 et 100 000 morts au total.
Ouais, non.
On va suivre ça de près au cours des prochaines heures, mais c'est sûr que ça augure pas bien de ce côté-là. De l'aide humanitaire de différents pays est partie.
J'ai pas vu pour le récent, là, parce que je sais que ce matin, c'était l'aide internationale qui s'organisait, puis l'ONU, bien sûr, puis les États-Unis qui mentionnaient être là pour l'aide, puis les pays européens. Puis j'avais pas vu le Canada encore là-dedans, mais là, Marconi a fait une conférence de presse dans les dernières minutes. J'imagine qu'il en a parlé un peu, puis que d'habitude, le Canada est quand même bon pour aider.
Bien sûr, le Canada qui a annoncé préparer une aide humanitaire justement pour soutenir les personnes touchées par des séismes du côté du Venezuela. Mais c'est sûr qu'on va avoir différents développements. C'était le plus gros séisme qui a touché le pays depuis 1990. Je termine avec ça. Annonce de candidature pour la CAQ dans Terrebonne et les Plaines. En fin de semaine, les CAQistes avaient annoncé leur première candidature. Nouvelle candidature, là. Manuela Goya, dans Brome, Missisquoi. Cette fois-ci, c'est dans Terrebonne, Valérie Doyon, une conseillère municipale et présidente du conseil municipal de Terrebonne. Et dans les Plaines, c'est Fatou Diop, entrepreneur et leader communautaire du secteur également. C'est deux circonscriptions où le PQ mène, mais la CAQ n'est pas si loin derrière.
Bien, on va en reparler d'ailleurs dans le caucus dans les prochains instants avec justement toi, Antonine. Juste le temps de dire que êtes-vous mêlé, vous, avec, sur les journées? Encore tantôt...
On est lundi, n'est-ce pas?
Ben oui, on est lundi, hein? Clairement, c'est le début de semaine, tout le monde. J'ai trouvé que le week-end a passé vite, je sais pas pour vous.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on est lundi, mais un peu vendredi.
C'est... Ben là, je suis à même place, je suis complètement déboussolé. Puis au 418-971-1021, je sais pas si parmi vous, vous êtes en congé ou vous travaillez. Mais est-ce que vous vous sentez vraiment un jeudi? C'est vraiment bizarre aujourd'hui.
En tout cas, je me rappelle pas d'avoir eu une Saint-Jean-Baptiste de congé un mercredi en plein milieu de semaine, mais là, le vivre, j'ai hâte de voir. Puis, oubliez pas une chose, la semaine prochaine, ça va être la même chose. On va encore avoir, pour la plupart, un congé en plein milieu de la semaine. Faites-vous pas avoir.
Mais j'ai l'impression que ça va être moins pire pour la fête du Canada. Puis, je m'explique. Le mardi soir, on avait l'impression d'être en congé. Tu sais, la soirée
c'était
du mardi...
Festif.
C'est ça, c'était une fête. C'était comme une journée de congé en soi, le mardi. Après ça, on a eu le mercredi, que c'était le lendemain de fête, tout. Puis là, on recommence à travailler de même, pas trop rapport. C'est
généralement, le 1er juillet, on fête un petit peu
On fête beaucoup moins.
Je veux pas rendre ça politique, là, mais d'habitude, c'est plus relax.
Puis avec le déménagement, peut-être aussi, de toute façon, les gens vont prendre ça pour ce temps-là. Mais donc, c'était une journée spéciale sur le fait de, on est bel et bien jeudi, on est bel et bien le 25 juin, puis demain, c'est déjà vendredi, OK? C'est bon, ça?
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Dans On en jase à Boulevard 102.1, moi, c'est ma première de la saison avec vous.
Ta première et ta dernière de la saison.
Oui. Et ce sera, par contre, la dernière.
C'est ça.
Justement, du caucus avec toi,
Antonine. C'est des premières, c'est des dernières. Oui. On est lundi, on est vendredi, on est jeudi, on est tout mêlé. Mais c'est mon dernier caucus avant l'été. Ouais.
Ben, Caroline, puis c'est normal avec la fin de la session parlementaire puis tout aussi.
Puis aussi, c'est parce que les gens ont moins envie de parler de politique. On en parle un peu. Mais c'est sûr que le caucus, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'on prend un bon 25 minutes pour tout décortiquer, les sujets majeurs de la politique, scène fédérale, scène québécoise, scène locale, même internationale? Là, l'été, on vous donne un petit break. Là. on va être plus léger. Les gens, ils pensent plus à leur barbecue et c'est bien correct. Par contre, je dois dire, Gab, que depuis quelques étés, ça ralentit beaucoup moins qu'avant.
Oui, explique.
L'été passé, ça bougeait pas mal. C'était le premier été de Mark Carney. Il se passait beaucoup de choses à la scène fédérale. Trump nous tient occupés.
Et préparation de politique municipale l'été
politique
passé aussi.
Politique municipale. Ouais. Il y avait aussi une élection partielle dans Arthabasca avec Éric Duhaime. On en parlait beaucoup. L'autre été d'avant, c'était la présidentielle. C'était les primaires américaines. Coup de théâtre avec Kamala Harris qui a remplacé
Joe Biden.
Donc, ça fait plusieurs étés que moi, pour vrai, ça ralentit pas tant que ça. J'ai beaucoup de
travail. Est-ce que tu y crois cette année?
Que je vais relaxer? Non. Là, c'est vraiment le pire. Là. C'est campagne électorale québécoise cet automne. Donc, oublie ça. Mes attentes sont très basses en termes de repos. Mais on va quand même mettre une pause au caucus. Mais on va profiter de ce dernier caucus au maximum.
Alors, qu'est-ce qui nous a marqué lors de la dernière saison, du dernier 4 ans? Parce que là, la CAQ à l'Assemblée nationale, c'est terminé. Même si on continue d'annoncer des appels d'intérêt international pour le troisième lien, techniquement, il n'y a plus grand-chose qui se passe en termes de projets de loi puis de trucs d'Assemblée nationale. Le dernier mandat, si on considère aussi que le premier mandat, ce qui nous a marqué, c'était la pandémie, évidemment, avec François Legault. Puis c'est une des raisons certainement qui lui a permis d'être réélu à aussi forte majorité lors de son second mandat. Mais le second mandat, c'est quoi qu'on en retient? La question est bonne. Puis, est-ce que tu veux que je commence ou c'est qui?
Écoute, d'abord, juste dire que tu as raison de dire que le premier mandat, ça a été beaucoup marqué par la pandémie. Puis de se rappeler aussi, moi, je vous ramène en 2022, comment François Legault était populaire. Puis, tu sais, là, c'est dur de le réimaginer maintenant tellement que le cycle politique fait en sorte que l'usure du pouvoir est lourde sur François Legault. Bon, il y a Christine Fréchette qui est là, mais t'sais, on arrive à la fin d'un deuxième mandat pour la CAQ, puis on finit cette session parlementaire-ci avec un été politique qui nous amène à la campagne électorale extrêmement imprévisible, des sondages qui sont très, très morcelés, puis ça continue de bouger. Mais quand j'ai fait l'exercice de réfléchir aux moments qui m'ont marqué dans les dernières années, il y a des affaires qui me semblaient tellement loin, on dirait que ça fait tellement, tellement longtemps. Fait que j'avais envie de vous poser la question, vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les événements politiques des 4 dernières années? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier, Mathias.
Moi, j'irais avec un mot. Et puis, j'ai l'impression que ça résume peut-être pas les 4 dernières années, mais du moins les 2-3. Fiasco. J'ai l'impression que ce soit de fiasco Nordvolt, que ce soit de fiasco Saclic, le deuxième mandat de François Legault a été beaucoup marqué par ce mot-là. Le mot
c'est
fiasco,
vrai.
Que tous les scandales du côté de la CAQ, on le ramenait. Un fiasco du côté de Sakic, un fiasco du côté de Nordvolt. Ouais. Puis en même temps, c'est parce que c'était le terme approprié pour ça, mais j'ai l'impression que...
La subvention aux Kings de Los Angeles.
Ça, mon Dieu, cette séquence
toutes ces affaires-là.
Absolument. Toi, Gab, qu'est-ce qui t'a marqué?
Ben, c'est drôle parce que je t'allais à peut-être pas contresens aussi de ce que tu dis, mais oui, j'ai eu l'impression, parce qu'un des moments qui m'a marqué, je pense, c'est la grève du réseau de l'éducation.
Oui.
Ça fait... Pas si longtemps, mais assez longtemps politiquement, parce que c'était pas cet
automne,
c'était l'autre.
2024. 4, ouais.
Donc, puis ça m'a fait réfléchir par la suite à l'année suivante, 2025, où on a tenté d'avoir la même ligne dure sur les négociations avec les médecins dans le réseau de la santé. Puis les deux fois, c'était « OK, non, c'est l'automne, on a les coups des franches, on a des réformes à faire et voici nos conditions puis voici les renouvellements de conventions collectives. L'éducation, ça va fonctionner de même. » Les syndicats braquent le bouclier, les grèves qui étaient quand même assez importantes, le réseau de l'éducation, on n'avait jamais vu ça. Et ultimement, Noël arrive, « OK, bon, on trouve une entente, le gouvernement met de l'eau dans son vin, puis... » Ben, à voir si c'est mieux maintenant dans le réseau d'éducation ou est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient l'intention de faire, je ne le sais pas. Le résultat, c'est qu'ils n'ont pas réussi à maintenir la ligne dure. Et c'était la même chose avec la santé cette année avec Christian Dubé, qui avait un grand plan de match, qui a encore, la semaine passée ou la deux semaines, défendu la pertinence. mais que c'est pas arrivé parce qu'on a encore reculé versus des gros syndicats qui ont fait des grèves importantes qui, rendues à Noël, ben finalement, ça n'a pas eu lieu. Fait que moi, c'était ça. C'était dû beaucoup des intentions de faire quelque chose, mais à la dernière minute, pas réussir à le faire parce que politiquement, après ça, ils perdaient complètement la bataille de l'opinion publique à chaque fois.
Oui, puis je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est vraiment dans l'ADN de ce que François Legault voulait faire en politique, notamment sortir du carcan syndical. Parce qu'on veut faire des politiques, on veut faire des changements, mais il faut que tu négocies des conventions avec les médecins, avec les infirmières, avec les enseignants, etc. Puis là, tu te butes à certaines limites. Puis est-ce que François Legault et Christian Dubé auraient dû garder la ligne dure, par exemple, par rapport aux médecins? Moi, je trouve que le système de santé, on sort de ces années-là, puis c'est dur de ne pas être complètement cynique, de se dire, coudonc, est-ce que c'est possible de faire ce genre de changement-là? Parce que moi, pour vrai, je leur donne... Je pense qu'ils avaient vraiment une bonne intention.
Je suis à la même place que toi. Je pense que la personne qui m'a vraiment fait le plus y croire à ce qu'il y ait une certaine amélioration... c'était Christian Dubé. Il y avait d'ailleurs, à l'automne dernier, l'appui du public quand même. C'était un des policiers les plus appréciés là,
absolument.
Du gouvernement.
Puis les fiascos de la CAQ dont Mathias parlait, ça collait pas du tout à la peau de Christian Dubé. Il est resté populaire assez longtemps. Mais c'est comme si, finalement, quand les médecins ont commencé à faire des moyens de pression, ils ont commencé à s'en aller en Ontario, à fermer des cliniques, là, l'opinion publique a complètement reviré de bord.
Mais si Christian Dubé n'a pas réussi, je sais pas qui va réussir.
Ben, c'est ça qui est décourageant. Ouais. Ouais, absolument. Puis je nous corrige parce qu'on a dit automne 2024
c'était
pour
2023?
La grève. C'est 2023.
Bon.
Puis ça, c'en est un moment, je pense, qui est comme le point tournant du mandat de la CAQ. C'est cet automne-là où, bon, on avait déplogué le troisième lien quelques mois auparavant. Élection partielle dans Jean Talon en octobre. Et là, sort un autre scandale sur le troisième lien. Pascal Paradis, candidat du PQ, qui, en fait, la CAQ sort l'information comme quoi il a voulu être candidat de la CAQ pour l'élection générale, un an plus tôt. Mais lui, il réplique, puis il dit « Ouais, c'est vrai que j'ai rencontré la CAQ. » Puis savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils allaient attendre après l'élection pour déploguer le troisième lien. Donc là, c'est venu vraiment nourrir cette idée que la CAQ, finalement, agissait de façon pas transparente dans le dossier du troisième lien. Le PQ a gagné cette élection partielle. Juste après... Ça a été l'annonce des premiers gros déficits par Éric Girard, ministre des Finances. Et quelques jours plus tard, c'est l'annonce des Kings.
Puis
Et la grève dans le système d'éducation en même temps.
Et les salaires des élus qui
et
augmentent.
Et le salaire des... Oui. Donc, ça a été comme un 6 mois, une séquence là, genre terrible de communication politique. Et c'est vraiment le point tournant. Puis quand on regarde l'évolution des sondages, vous allez voir là, la courbe du PQ à ce moment-là qui croise... en montant celle de la CAQ qui s'effoire. Mm-hmm. C'est vraiment cet automne-là, automne 2023.
Mais en même temps, c'était tellement un désastre. C'est comme si rien n'était prévu. Tu sais, on rentrait dans une négociation avec... On rentrait dans une négociation avec le milieu de l'éducation. On savait qu'on s'en allait là. C'est comme si tout ce qui était par rapport aux négociations, c'était pas prévu. On s'est fait battre dans une partielle en même temps. On a agi en panique en faisant plein de niaiseries.
Mais là, je vais faire un lien avec le premier mandat. C'est que la CAQ, c'était un parti qui était habitué de gouverner un peu par décret. Il n'y avait pas d'opposition dans le premier mandat. Les groupes d'opposition étaient très affaiblis. Il y a eu la pandémie. On pouvait gouverner un peu par décret. L'Assemblée nationale avait été un peu fermée pendant un bout de temps. Puis quand ça s'est mis, la chaleur s'est mise à monter. On a l'impression des fois que la CAQ avait de la difficulté à gouverner dans ce nouveau paradigme-là. Moi, un autre événement qui m'a marqué dans le dernier 4 ans, c'est le départ de Pierre Fitzgibbon. Un an plus tard de ce qu'on se disait l'automne 2023, c'est à l'automne 2024, pardon, que Pierre Fitzgibbon, super ministre...
Il avait trouvé l'amour.
Ouais, je pense qu'il avait... En fait, il avait perdu l'amour de la politique.
Oui!
Et rappelez-vous, pendant quelques temps, la rumeur courait continuellement que Pierre Fitzgibbon allait quitter, puis il semble que ce soit le premier ministre, à un moment donné, qui a dit « Là, Pierre, là, va-t'en donc. » Tu sais, comme on est tanné de t'entendre dire « Ouais, je vais m'en aller bientôt, ta-ta-ta. » Parce qu'il avait déposé un gros projet de loi qui réformait l'énergie. Il disait « Je vais finir le projet de loi, puis je vais quitter. » Mais finalement, M. Legault, il a dit « Non, Pierre, garde, je suis tanné, va-t'en. » Et c'est là qu'il a mis Christine Fréchette. Et c'est là que les gens ont commencé à découvrir Christine Fréchette, puis la vie a fait finalement que Mme Fréchette est devenue première ministre. Et il y a eu une autre élection partielle, et c'est une autre élection partielle que la CAQ a perdue.
Ouais,
tous beaucoup. Les députés de la CAQ qui ont quitté, qui ont créé des élections partielles dans Chicoutimi aussi, dans Arthabasca, ça a fait en sorte d'amener des défaites assez crève-cœur pour la CAQ par la suite.
Ça va nous mener à notre prochain sujet aussi tout à l'heure par rapport au fait qu'ils ont présenté deux candidats aujourd'hui. Parce que c'est un point important. Ils annoncent présentement, là, on quitte le navire le plus rapidement possible sur le naufrage de la CAQ. Les ministres, les grands députés, ceux-là qu'on connaît avec les noms.
D'élus
ça
qui
fait
annoncé
vraiment,
qu'ils quittaient, là.
Vraiment beaucoup. Là. Pendant que de l'autre côté, on annonce des candidatures relativement vedettes. Même du Parti libéral puis du Parti québécois, des gens connus, des gens qui ont une bonne feuille de route aussi. Puis il n'y avait rien, c'était à sec complètement pour la CAQ. On peut comprendre un peu pourquoi. Juste parce que je veux aller là, parce que tu as ouvert la porte, mais est-ce que ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est des candidatures vedettes? Est-ce que c'est des gens...
Non, c'est pas des candidatures vedettes. Okay. OK, soyons clairs. Par contre, je pense que quand tu es un parti politique, tu n'as pas à présenter juste des candidatures vedettes. Puis, il faut se rappeler aussi que des candidatures qui n'étaient pas vedettes sont devenues des vedettes. Ouais. Je pense à Geneviève Guilbeault, par exemple, en 2017, qui s'est présentée dans une élection partielle dans le Weber. C'était le plan B, hein, Geneviève Guilbeault. C'était même pas elle qui était candidate de la CAQ au début de l'élection. Puis Geneviève Guilbeault, c'est devenue une figure vraiment importante de la CAQ par la suite.
Donc ça pourrait, celui d'aujourd'hui, ça pourrait devenir des figures importantes, peut-être.
Je les connais pas, mais ces deux personnes-là qui ont été nommées. Valérie Doyon, conseillère municipale, on en voit souvent des conseillers municipaux qui font le saut vers d'autres paliers de gouvernement. Généralement, c'est des gens qui sont bien intégrés dans leur milieu, qui ont une expérience aussi politique. Donc, ça fait des candidatures très intéressantes pour les partis provinciaux. Le maire de Terrebonne qui a annoncé que Mme Doyon, qui faisait partie de son équipe, va siéger comme indépendante. D'ailleurs, c'est toujours un avantage assez particulier pour les conseillers municipaux qui sont payés, eux autres, pendant campagnes. Hein? Ben oui, ça arrive souvent. Malheureusement, les gens ont un avantage non négligeable sur d'autres candidats qui, eux, font ça un peu bénévolement.
Surtout qu'il y a plusieurs petites municipalités que ce n'est pas un emploi temps plein non plus, être
conseiller municipal. À Terrebonne, je pense que oui. Donc, Valérie Doyon, dans Terrebonne. Puis, effectivement, tu le disais tantôt, Gab, dans Terrebonne, et dans les plaines, la CAQ est... Ah, c'est toi, Mathias, qui disait ça, je m'excuse. En tout cas, je ne sais plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un d'entre vous qui a dit ça, c'était très
pertinent. C'est pertinent,
oui.
c'est moi.
Donc, chicanez-vous pas, vous êtes tous les deux pertinents. La CAQ est deuxième. Donc, par exemple, dans Terrebonne, le PQ est projeté autour de 44 % La CAQ à 34 %. C'est quand même une bonne marge, mais c'est parmi les meilleures circonscriptions pour la CAQ. Okay? Parce que ça va pas très bien quand on regarde les projections pour la CAQ. Christine Fréchette qui a réussi à aller chercher des points de sondage supplémentaires puis à aller chercher quelques sièges projetés CAQ à la prochaine campagne électorale, mais il n'y en aura pas de facile. Puis le recrutement, quand tu n'as pas de château fort à offrir, toi, tu es candidat vedette. Là.
Ouais.
Tu te dis, bon, ben moi, je vais prendre un risque. Je suis animateur de radio, puis là, je veux me lancer en politique. Mais je prends un risque. Là, je veux gagner.
Après,
là.
Ben oui, dans n'importe quel domaine, tu es marqué à vie après en voulant dire que tu es la personne qui a fait ça.
Si j'ai pas de château fort à t'offrir,
ouais.
C'est un gros risque là, pour certaines candidatures, alors que les libéraux puis les péquistes ont des châteaux forts. Les libéraux surtout. Là,
oui.
Ils en ont comme 25 à la base. Là, c'est quand même intéressant. Fait que, mais pour le PQ, qui est très, très implanté dans l'Est du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, ils ont des comtés très intéressants à offrir, puis surtout qu'ils sont promis dans les sondages.
Et même les
plus.
Conservateurs, à un certain point, je veux dire, il y a des endroits qu'ils sont. Puis ils n'ont pas encore de. Ils en ont un député transfuge, là, mais ils n'ont pas fait élire encore. Mais techniquement, tout ce qui arrive sur la rive sud de Québec présentement.
C'est des bons comtés.
Ben,
là.
Oui, c'est un bon comté pour Éric Duhaime, puis c'est d'ailleurs là qu'il va se présenter cette année, c'est-tu
Dans Bellechasse, exactement.
Ouais. Il calcule ça en voulant dire, tu sais, à cet endroit-là, ça va être, si on a des chances de faire élire quelques-uns, ça va être là.
Puis Éric Duhaime, là, il veut pas rater son coup cette fois-là, parce qu'il s'est présenté dans l'élection partielle dans Arthabasca et ça n'a pas fonctionné. Donc cette fois-ci, il s'est dit, moi, je vais prendre le meilleur comté, là. Mm-hmm. Là, c'est pas vrai que je vais rater mon entrée à l'Assemblée nationale en 2026.
Même Québec solidaire pourrait... Est-ce que, Gouin, si tu gagnais pas mal, en plus que c'est un candidat...
Mercier, Gouin, là, c'est des châteaux forts.
Oui, de
QS.
Québec solidaire,
oui.
Quand même. Hein,
en région, c'est plus dur en ce moment. Si on regarde, par exemple, Sherbrooke, où est-ce que Christine Labrie, pour l'instant, c'est vraiment pas gagné, que
Québec,
QS va le garder.
Il y en a... C'est pas des châteaux forts, mais il y en a des députés. Ouais. Solzanetti, en fait, était dû à Québec.
Oui, et Étienne Grandmont, dans Taschereau.
Ouais.
Ils sont à risque, quand même, là, pour la prochaine campagne électorale. Mais ça va dépendre de plein de choses. Puis Taschereau, ça a toujours été une circonscription où il y a des luttes à trois. Ça peut créer des surprises.
Parce que Taschereau, Étienne Grandmont, avant ça, c'était...
Agnès Maltais.
Oui,
Catherine
Dorion que je cherchais. Exact. Donc, tu sais, c'est ça. Toujours un peu plus du côté gauche de la chose et avec le PQ avant d'être avec Québec solidaire.
Absolument.
Mais non, donc... Puis, tu sais, Je sais pas qu'est-ce qui explique que dans Terrebonne et les Plaines, c'est les meilleurs comtés de la CAQ. Je sais pas si tu l'as-tu
La couronne de Montréal, c'est un terreau fertile pour la CAQ. Je te dirais que traditionnellement, la région de Québec, Chaudière-Appalaches, centre du Québec, puis les couronnes de Montréal, c'est des terreaux fertiles pour la CAQ. Mais en ce moment, il n'y a rien de gagné nulle part. Là.
Mais est-ce que à Terrebonne, il y a eu quelque chose qui a été fait par des députés ou quelque chose qui a été construit politiquement, qui se sont dit, ben oui, regarde ce qu'ils nous ont amené dans les 8 ans de règne ici à Terrebonne maintenant que.
Non, mais c'est des comtés très francophones.
Ouais.
Donc, c'est très bleu. Le PQ, la CAQ, ça va être très fort. C'est plus difficile pour les libéraux. Puis, je dis ça, puis au fédéral, étrangement, Terrebonne a voté pour le Parti libéral du Canada. Donc, ça peut toujours varier. Mais c'est des comtés qui sont très, très, très francophones. Les libéraux ont de la difficulté
mais
à percer.
C'est ça le défi de la CAQ, j'ai l'impression, pour les prochaines élections aussi. C'est de dire, oui, on remonte dans les sondages, mais on reste dans une majorité de circonscriptions, seulement deuxième derrière le PQ.
Ouais. Ouais.
Fait qu'on chauffe le PQ, mais dans plein de circonscriptions, on va chauffer le PQ sans jamais en ramasser.
C'est pour ça qu'un parti libéral à 9 % d'intention de vote va avoir quand même 30 députés, mais que la CAQ à 30 % d'intention de vote... Peut-être 30, je pense que c'est plus 20 là, présentement, sont remontés à 20.
En bas même un peu.
Bon, fait que même à 20, ils peuvent avoir zéro. Parce qu'ils peuvent terminer deuxième à bien des places.
Tout est question de concentration du vote.
Ouais.
Concentration du vote francophone. Pour les libéraux, vote non francophone, ça s'en va tout dans la banque libérale. Donc, il faut regarder les projections. Il ne faut pas regarder seulement les intentions de vote. Puis pour la CAQ, il n'y a rien de gagné. Puis l'autre affaire avec la CAQ, c'est que c'est pas un parti où il y a un militantisme là, vraiment profond.
Ouais.
Vous connaissez tous des gens qui ont leur carte du Parti libéral, puis vont voter rouge toute leur vie, puis tout ça. Puis vous avez des péquistes, là, ils veulent voir leur pays, là, puis ils vont toujours être membres du PQ. À la CAQ, est-ce qu'on a vraiment cette base-là? Donc, moi, ce que je trouve intéressant avec la CAQ, c'est que j'ai l'impression que s'il n'y a pas un vrai mouvement, là, en campagne électorale, à un moment donné, le monde se dit « OK, go, on y va avec Christine Fréchette », bien, ils risquent toujours un peu de s'effouérer parce que les gens vont dire « ben là, si la CAQ n'a pas de chance de gagner pour battre l'option que j'aime le moins, ben alors, c'est quoi mon vote le plus stratégique? » Genre, si la question de l'urne, c'est vraiment la question du référendum, ben moi, si j'étais le Parti libéral, je dirais, écoutez, la gang, là, un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Là.
Ouais.
Si vous voulez vraiment pas qu'il y en ait de référendum, c'est chez nous. Puis en plus, t'es libéral, tu dis, en plus, il y a plein de caquistes qui sont pour soi à souveraineté, là, vous le savez. Vous avez vu Mathieu Lacombe, l'a dit, qui était dans l'autobus du oui. Donc, ça va être ça un peu le jeu, puis c'est le défi de Christine Fréchette, c'est vraiment pas évident.
On a vu aussi dans l'actualité politique que les débats des chefs, donc les dates sont données, les réseaux également sont confirmés par rapport à tout ça. Il y en aura 3 cette année des débats des chefs. Historiquement, ça a toujours été 2, mais avec Nouveau qui s'invite dans la fête aussi, donc ça en fait un supplémentaire. Et tant mieux, c'est bon pour le débat public qu'il y en ait davantage, des occasions comme ça pour les Québécois de se faire une idée, de juger des potentiels chefs et premiers ministres. Mais il n'y aura aucun débat en anglais. Et ça, je ne sais pas si historiquement ça a été fait au Québec
ça
tant
a
que
varié,
ça.
En fait, parce que en fait, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire en passant. Hein, le Québec, c'est une langue officielle, c'est le français. Mais moi, j'étais directrice des coms du PQ en 2018 dans la campagne, puis on l'a fait avec le PQ. Jean-François Lisée voulait le faire. Jean-François Lisée était chef du PQ à l'époque et lui avait été ministre des Relations avec les anglophones. Donc, pour lui, c'était important de le faire. Mais ça a eu un coût aussi. Les militants du PQ, ils sont pas nécessairement d'accord avec cette pratique-là.
L'idée d'un débat anglophone au Québec en général.
Oui, ils considèrent qu'ils peuvent l'écouter en français.
Ouais.
Puis les anglophones au Québec sont supposés être capables de parler français. Donc, qui s'organisent. Mais pour M. Lisée, c'était important de le faire. Il y avait eu lieu. Il faut comprendre que les débats, c'est pas quelque chose qui est régi par Élections au Québec. Ce n'est pas le directeur des élections qui dit le débat va être à telle date, ça va être ça le concept, telle personne va être invitée.
Au Canada,
c'est
c'était plus
médias.
Ça, non?
Non. Il y a une commission. Okay. Il y a une commission qui se met en place, mais c'est vraiment quelque chose qui est géré par les médias. Et il y a des négociations avec les partis politiques. Moi, j'ai fait ça, négocier des débats. Puis là, on va tout être assis autour de la table, puis on va dire OK, pour telle date, notre chef, nous, il veut vraiment parler de tel enjeu. Non, non, non. Il y a une négociation, puis les médias vont dire OK, ben ça va être telle thématique, telle longueur, tel animateur.
Tout le monde est d'accord là-dessus.
Est on y d'accord, va. Ouais, on ça. Y va, etc. On n'a pas les questions d'avance en passant. Ce qui arrive aussi, c'est que si c'est pas tout le monde qui dit oui à un débat, ça a tendance à tomber à l'eau. tu sais, à part si c'est des petits débats plus locaux, mais un débat des chefs, ben vous verrez pas TVA dire ah ben le PQ vient pas, mais on va le faire pareil. Non, là, ça marche pas comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le débat en anglais. En fait, le Parti libéral était pas contre, mais tu sais, ça c'est sûr, c'est son électorat. Mais en même temps, ils étaient pas là.
On sait pas qui était contre dans la proposition du débat en anglais.
La CAQ était contre.
Oui, c'est ça.
Le PQ l'a évalué puis a dit non. QS était d'accord. Éric Duhaime était d'accord selon ce que j'ai compris. Mais les libéraux n'étaient pas si chauds à l'idée que ça. Puis moi, je me l'explique de la manière suivante, c'est que c'est du vote qui est acquis. Les anglophones, ils votent libéral. Donc, pour un chef francophone, préparer un débat en anglais... Moi, je fais des chroniques en anglais, là. Puis à chaque fois, je me dis, pourquoi je fais ça? OK, genre 20 minutes avant, je regrette toujours d'avoir accepté. C'est dur de parler de politique dans pas ta langue.
Ouais.
OK, c'est vraiment beaucoup de travail. Déjà, préparer un débat, point.
On les voit des fois au débat des chefs fédérales
avec
les chefs du bloc. Surtout quand eux, ils font en français aussi. Là, ça, c'était épouvantable. Mais même des fois, il y en a toujours un autour de la table. C'est souvent le chef du bloc qui, dans le débat en anglais, tu le vois que OK, il est correct, il se débrouille, mais c'est pas aussi acquis que les autres.
On est toujours moins sévère avec les autres qu'avec nous-mêmes. Ben oui. Mais il y a toujours aussi le risque de dire quelque chose pas tout à fait avec les bons mots. Mm-hmm. Tu sais, on est dans une société où on cancelle les gens facilement.
On suranalyse beaucoup les choses,
Puis là, on parle de langue, de laïcité, de... Là, tu dis pas le bon mot, tu te ramasses dans le trouble.
Des cinq chefs principaux, c'est lequel qui a le plus peur des débats, à ton avis?
C'est une excellente question. Parce que ça aussi, ça explique pourquoi il y a autant de débats. Pourquoi les partis ont autant dit oui? C'est parce qu'il n'y a pas de gagnant clair
d'avance
en ce moment. Okay? Donc, on a une vraie campagne. En 2022, on savait que la CAQ allait gagner. On est tout d'accord?
Il y avait la faveur.
Okay? Oui. Donc, François Legault, il avait l'avantage de faire le moins de débats possible, de se mettre le moins à risque. Puis surtout, ce n'est pas un débatteur exceptionnel. Puis tout le monde allait l'attaquer. Donc, il y a eu deux débats, that's it. Maintenant, quand on est dans une course où c'est assez morcelé, on dit une course à trois présentement, bien, ils ont chacun beaucoup à prouver. Qui a le plus à perdre? Bien, Christine Fréchette, elle est très connue. Ses politiques sont connues. Elle continue de gouverner jusqu'à la dernière minute. Moi, je trouve qu'elle n'a pas tant à perdre que ça.
Non.
En plus, les attentes ne sont pas si élevées par rapport à elle. Elle n'est pas connue pour être une grande débatteur. Puis pendant la course à la chefferie, je l'ai trouvée surprenante. Donc moi, je pense qu'elle va être à l'aise de faire ses débats. C'est sûr qu'elle doit porter le fardeau de l'usure du pouvoir. Elle va être la cible de beaucoup d'attaques. Mais en même temps, puis là, c'est un peu tabou en politique, mais quand tu as une femme en face de toi, tu peux pas y rentrer dedans comme tu peux rentrer dans un gars nécessairement. Fait que moi, je pense que ça va être assez compliqué de l'attaquer sans avoir l'air un peu moche, de faire de la politique moche. PSPP, très bon en débat.
C'est sûr. En tout cas, moi, j'ai...
Il est solide.
On connaît tous son intelligence, mais sa culture.
Il est très structuré.
Oui.
Il y a une argumentation qui est claire, qui est très, très fouillée. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à perdre à faire des débats pour Saint-Pierre Plamondon, sauf s'il commence à être très négatif.
Oui, ou à avoir une réaction de faciès un peu excédée par certaines questions ou certaines affaires.
Il soit aussi bon qu'en 2022. En 2022, il était très bon.
C'est ça.
Éric Duhaime, il a tout à gagner. Lui, il essaie d'imposer sa force politique. Ruba Gazal, ça va être ses premiers débats. Donc, elle aussi, elle veut se faire connaître. Puis quand on regarde, les taux de popularité ne sont pas très élevés. Donc, pour moi, tout le monde a gagné. Charles Milliard, c'est un peu un point d'interrogation pour moi. Parce que à date, il n'a pas réussi à avoir un départ canon. On ne comprend pas trop c'est quoi sa vision politique. Donc là, moi, c'est sûr que je regarde ça et je me dis, ça va être l'occasion parfaite de nous expliquer qu'est-ce que tu veux faire avec le Québec? Parce qu'à date, moi, je comprends pas.
Ben, il y a pas grand-chose. Tu sais, c'est que il est encore beaucoup inconnu en général. Fait que la campagne va être bonne pour ça. Puis
c'était juste une occasion de faire première bonne impression. Là, il y a eu comme une première impression ordinaire, pas catastrophique.
Non.
Donc là, faut qu'il score. Là.
Oui. C'est pour ça que je pense que c'est lui, moi, à mon sens, qui a le plus à perdre, parce que de base, les libéraux ont quand même la marque qui est quand même affaiblie aussi par les différents scandales, mais du fait que tu as toujours l'occasion d'être à tout le moins l'opposition officielle avec l'équipe libérale. Puis présentement, les sondages vont bien, mais est-ce qu'il est capable d'amener ce parti-là jusqu'au pouvoir ou au contraire, il va les faire redescendre en troisième parce que la campagne va avoir été difficile pour un politicien qui n'a pas une grande expérience?
Exactement. Le manque d'expérience apparaît un peu.
Mais je suis d'accord avec toi que c'est lui qui a le plus à perdre, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a le plus à gagner aussi. De mon point de vue, c'est comme... j'ai vraiment l'impression que l'exercice du débat pour Charles Millard, ça va être vraiment un sabre sur sa case.
Ouais.
Que ça peut vraiment... Tu sais, des fois, des débats, ça n'a pas nécessairement un gros impact sur la campagne électorale. Pour un politicien qui n'est pas encore si connu que ça de la classe politique québécoise, mais qui est quand même deuxième dans les sondages, j'ai l'impression que là, le débat va avoir une grosse importance pour les prochaines élections.
La campagne va avoir une grosse importance. Les débats vont avoir plus de poids qu'en 2022, à mon humble avis. Ça va être une campagne très, très intéressante à suivre. Il n'y a rien de gagné. Puis quand on regarde les sondages, il y a beaucoup de gens qui vont dire « ben mon intention, c'est de voter pour ce parti-là, mais c'est pas certain. » J'ai regardé un rapport des derniers sondages de Léger Marketing et on voyait que le vote n'était pas coulé dans le béton là, pour la plupart des gens. Donc, la campagne va vraiment, vraiment compter.
Puis on en parle parce qu'on vous rappelle que le débat des chefs, c'est ce soir. Non, c'est pas vrai.
D'ailleurs, moi, je serai de la soirée du débat de nouveau. Oui. Je sais que c'est moins dans les habitudes des gens. On a toujours tendance un peu à regarder les mêmes postes de télé, mais c'est aussi diffusé sur Crave. Oui. Puis sans vouloir faire de la grosse plug, c'est juste de dire que c'est très difficile d'aller rejoindre d'autres générations pour ces débats-là. Il y a aussi plein de gens qui font du contenu maintenant politique sur les médias sociaux. Je trouve que
dont
ça va être
qui se présente pour les libéraux.
Ouais, ben Farnell, évidemment qu'on connaît bien ici. Lambert Drainville aussi. Ouais. Alex Plick qui en fait beaucoup également. Moi, je trouve qu'aussi cette campagne-là, ça va être aussi la campagne des gens qui font du contenu numérique. Puis font les choses un peu différemment. Puis je trouve que ça enrichit beaucoup le débat
puis
politique.
Le vote, ce sera le 16 septembre, donc sur Nouveau. Puis, comme tu as mentionné, aussi sur Crave. Le 15 septembre du côté de TVA et le 23 septembre pour le dernier, le troisième, ça va avoir lieu à Radio-Canada.
Ça, moi, ça fait... va être des grosses journées.
Trois en huit jours.
Aïe, aïe. Et on surveille aussi, est-ce qu'un des débats va être fait à Québec? C'était une des propositions d'Éric Duhaime. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est notre capitale nationale.
Oui.
C'est
Bruno Marchand serait content,
puis moi aussi. Fait que let's go. J'espère qu'il y a quelqu'un dans les médias qui va lever la main pour dire OK, on le fait à Québec.
Mais ça, c'est pas encore déterminé, non. En fait. On fait juste faire les dates puis on continue.
Ce qui est déterminé, c'est que tout est à Montréal. Je te le dis tout de suite. De base, c'est toujours de même.
Fait que ça changera pas.
Mais si quelqu'un avait l'infrastructure pour le faire à Québec, moi, je trouve qu'Éric Duhaime a vraiment un bon flash. Puis tous les autres partis, évidemment, ne peuvent pas être en désaccord avec ça, franchement.
Merci, Antonine, pour ce dernier ultime caucus de la saison. Je sais pas quand est-ce qu'on te réentend sur
le retour.
Mais moi, je suis au retour tout le mois de juillet. Ça commence aujourd'hui, alors je change un peu de beat, mais n'importe qui peut m'appeler dans n'importe quelle émission s'il y a un sujet politique, n'est-ce pas? Appelez-moi!
Donc, on retourne à circulation, Mathias?
Oui, juste avant de partir en pause, on va faire un petit tour dans circulation parce que c'est compliqué malgré le fait qu'on est sur l'heure du midi puis qu'à matin... À matin, ça se passait bien. Mais c'est ça, à matin, ça se passait bien. C'est vraiment bizarre, ces temps-ci à circulation. Ouest, 20 Ouest, présentement, hauteur de Taniata, c'est difficile. Ça remonte jusqu'à Président Kennedy. En direction Est, c'est à hauteur de Taniata que c'est au rouge aussi. Laurentien, direction Sud, pour prendre Capitale, petit ralentissement. Il semble avoir de quoi qui se crée tranquillement, pas vite, sur Capitale, direction Est, à hauteur de Robert Bourassa. Charest, direction Est, pour prendre Robert Bourassa aussi, la sortie. Là. Petit ralentissement dans le secteur. Sinon, s'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Dans On en jase, on revient dans les prochains instants avec un tour de table d'actualité. Puis et aussi, on va avoir plein de beaux petits sujets. Belle fun à vous jaser. C'est quoi le texto ici, Mathias?
418-971-1021.
Yes, n'hésitez pas. Jusqu'à 14h.